je voudrais faire une intervention. Ça fait plusieurs fois qu'on dit qu'il faut que les nomades soient plus nombreux, qu'ils produisent plus de valeur ajoutée, etc. La question qui vient, c'est quoi les nomades ? C'est qui ? C'est des entreprises, sans doute. Mais lesquelles ? C'est pas des grandes entreprises. J'ai lu, je sais pas s'il est là, un livre de Stéphane Guinchard qui s'appelle « Les secrets des champions cachés » qui explique que les grandes entreprises ne contribuent pas aux balances commerciales parce qu'elles optimisent dans chaque endroit. Et d'ailleurs, la France a plus de grandes entreprises que l'Allemagne et on sait avec quel résultat. Sa thèse, c'est que les entreprises qui contribuent beaucoup aux exportations, c'est des champions cachés, c'est des leaders mondiaux dans des niches généralement qui travaillent pour l'industrie, du B2B. Et il y a quelque chose de très parlant. Ils ont recensé, alors je ne sais pas comment, mais 2000 champions cachés dans le monde, 13 exportateurs. Ils en ont trouvé 1300 en Allemagne, quelques centaines en Chine, quelques dizaines en France. Et donc, c'est cela qu'il faut augmenter en France. Mais alors, qui sont-ils ? Alors, cette année, je pilote un mémoire d'ingénieur des mines sur les entreprises patrimoniales. Bon, les entreprises patrimoniales, on ne peut pas dire que ce soit les plus favorisées, les plus choyées par le gouvernement, notamment actuellement, fiscalement et autres. Et même en France, une entreprise dont le patron est propriétaire de génération en génération, c'est quelque chose avec lequel on n'est pas forcément très à l'aise. Et j'avais quelques années, j'avais piloté un mémoire qui parlait des patrons de PME et qu'ils avaient parlé du syndrome de Peter Pan. Quand on est en France, une petite entreprise, ça va, c'est confortable. Une très grande, c'est bien parce que c'est très valorisé. Mais entre les deux, bonjour les dégâts. Et beaucoup d'entreprises ne veulent pas vraiment grandir. Sont comme Peter Pan qui veut rester petit, parce qu'on est quand même beaucoup plus à l'aise en France, sans parler bien sûr des questions de financement. Donc, du point de vue de la culture, de la fiscalité et du financement, il y a quand même des sacrés obstacles à surmonter pour favoriser la multiplication d'ETI, sans parler de la stratégie industrielle, parce que monter en gamme, c'est pas très facile. Alors, je ne sais pas comment M. Puzot se ressent en France comme patron d'une grosse ETI, mais moi j'ai vu patrimonial. Moi, j'ai vu pas mal de, enfin, mes élèves ont eu pas mal de gens qui se sentent pas très bien quand même en France.
C'est une entreprise qui appartenait à Volvo en 80 et qui faisait du cap standard avec plein de concurrents. Ils m'ont embauché pour la diriger et est sortie la loi en France qui autorisait les leverage management buyout, appelé à l'époque RES, rachat d'entreprise par les salariés. Donc j'ai fait quasiment le plus ancien LMBO français, et en tout cas actuellement le plus ancien LMBO français vivant. Donc je dirige une entreprise historique, et en fait, dès que je suis devenu PDG sous les ordres de Volvo de cette entreprise, en 80, je suis arrivé fin 80, et 80 à 84, on a connu une crise économique extrêmement grave, surtout dans le secteur du câble, parce que les années 70 avaient été des années d'euphorie, avec le plan téléphone fixe de Giscard d'Estaing, avec les centrales nucléaires qui avaient besoin de câbles. Donc il y avait des milliers de PME qui avaient acheté un petit extrudeur et qui faisaient des câbles. Donc les prix se cassaient la figure, les sociétés faisaient faillite, etc. Ce qui s'appelle maintenant Nexans, qui à l'époque s'appelait Câble de Lyon, achetait les entreprises, les fermait, cassait les machines pour que les machines ne se retrouvent pas sur le marché de l'occasion. Et je me suis dit, je ne vais pas garder longtemps mon poste de PDG si je ne trouve pas une idée. On transporte toujours avec soi son expérience passée ou ses études passées. Comme j'avais une formation d'ingénieur, j'ai eu qu'une seule idée, c'était de dire je vais monter en gamme. Donc je vais échapper à la concurrence en faisant des produits plus techniques que mes concurrents. Je fais des produits absolument standards, j'ai plein de concurrents, je vais monter. Alors une fois qu'on a décidé ça, dans une entreprise où j'étais le seul ingénieur, la seule personne parlant anglais, comment on fait ? Et quand vous vendez des produits standards, vous avez une organisation avec des distributeurs, vous faites de la publicité, etc. Vous avez des vendeurs non techniques. Donc je me suis dit, quel est le câblier au monde qui fait les câbles les plus techniques ? Eh bien, c'était sans conteste la société Gore, qui avait fait le produit Gore-Tex, que vous connaissez tous. Le Gore-Tex, c'est du plastique Teflon, de type PTFE, enfin il y a 3-4 variétés de Teflon, que, en tirant un peu dessus, ça créait des micro-porosités. Et donc, quand on a un isolant plastique poreux entre le conducteur central et le blindage d'un câble coaxial, les signaux vont plus vite, parce que la constante diélectrique est à peu près celle de l'air, vraiment. Mais ils mettaient au tribunal tous ceux qui copiaient leur système d'expansion du Teflon. Je me suis dit, je vais regarder quels sont les labos en France, universitaires, qui travaillent sur la chimie du Teflon. J'en ai trouvé 14. J'ai été tous les voir. J'étais incapable de faire le tri. Donc j'ai pris le chercheur qui me semblait le plus sympathique. Et il s'est trouvé que c'était l'école de chimie de Lyon. Je leur ai pris des stagiaires, je leur ai embauché des étudiants. On a fait un petit contrat. Et à ma grande surprise, moins d'un an après, on avait trouvé déjà une première méthode pour arriver au même résultat que le Gore-Tex. Nous, on l'a appelé Céloflon et on l'a breveté. Donc à l'époque, j'avais en Teflon de type petit feu 20 salariés sur 1100. Maintenant, j'en ai au moins 300-400 qui ont bénéficié de ça. Alors, le fait de simplement dire « je monte en gamme » a eu plein de conséquences. La première, c'est qu'on fait du coup un produit technique. Et donc, passer par des distributeurs, c'est plus possible. Il faut avoir des vendeurs et des vendeurs techniques. Donc, mes anciens vendeurs ne convenaient plus. Il ne faut plus faire de publicité dans les journaux. Il faut aller directement dans des salons parce que c'est là où on a le contact direct avec le client. Donc, il faut commencer à faire des expositions. Et donc, à mes nouveaux vendeurs, j'ai écouté, vous allez chez le client, s'il achète des câbles en Gore-Tex, vous dites, on fait la même chose, 10% moins cher. Et donc, ça, cette opération-là, je l'ai répétée 3-4 fois. À un moment donné, la fibre optique devait remplacer tous les câbles cuivre, mais la fibre optique tient mal sur un champ de bataille parce qu'elle est rendue opaque par les rayons gamma des petites explosions nucléaires, etc. Et donc, il fallait un peu mieux blinder les câbles. Donc, j'ai cherché quels étaient les universitaires français qui travaillaient sur les interférences électromagnétiques. À l'époque, j'en ai trouvé deux. Pareil, j'ai pris celui qui me semblait le plus sympa, c'était Limoges. Et donc, j'ai pris un stagiaire, etc. Et donc, du coup, ça me fait 300 personnes à l'heure actuelle qui ont leur boulot grâce à ça. Et ensuite, je l'ai répété plusieurs fois. Après, je me suis dit, je fais tellement de niches, je n'arriverai plus à grossir dans le marché français, donc il me faut des filiales à l'étranger, donc j'ai créé mes filiales à l'étranger, etc. Donc, vous connaissez la méthode.
Mais moi, j'ai une méthode, c'est simple, c'est cloner le puzzle. Mais en fait, vous n'avez pas l'air d'avoir du tout souffert de l'ambiance, du contexte. Enfin, peut-être qu'à Montmirail, on se sent moins sous pression.
Tu veux absolument te faire dire à M. Puzot qu'en France, les patrons comme ils sont malheureux. Mais peut-être qu'ils sont heureux.
Je n'ai pas dit ça. Mais il ne suffit pas de dire qu'il faut multiplier le nombre d'entreprises nomades pour que ça se fasse. Il faut essayer de voir s'il y a vraiment un courant qui est de nature à encourager ce mouvement. Sinon, c'est parler dans le vide.
Moi, je suis absolument impressionné que vous ayez trouvé dans la province profonde des gens à Limoges pour faire de la recherche. C'est extrêmement encourageant, ça. Moi, je pensais qu'il n'y avait que dans les grandes écoles qu'on faisait ça, mais heureusement, non.
Peut-être un mot là-dessus, quand même, sur la spécificité allemande à ce niveau-là. C'est ce qui est vraiment spécial en Allemagne, de ce point de vue, c'est qu'ils n'ont jamais tué les corporations. C'est-à-dire qu'il y a des structures inter-entreprises. Alors, ça joue un rôle sur le plan des relations sociales, mais pas du tout uniquement sur le plan des relations sociales, y compris sur le plan du savoir-faire technique et de l'accompagnement à l'exportation. Le fait qu'il y ait des structures d'entraide extrêmement fortes au niveau des branches d'activité qui sont les héritières des corporations, en gros, ça joue un rôle absolument majeur. Par ailleurs, il y a un type d'institution que vous avez cité dans le cas des Fab Labs qui n'existe pas en France, c'est les Fraunhofer Institute. C'est-à-dire que c'est des institutions intermédiaires entre le CNRS et l'industrie. Il y a derrière, c'est pas simplement qu'ils ont des patrons plus aidés, c'est qu'il y a aussi des institutions qui n'existent pas en France qui font que ça fonctionne.
Je viens répondre à une question qu'on ne m'a pas posée, les machines allemandes. Et je vais vous raconter 2-3 petites expériences personnelles. En 80, j'ai remarqué que les sociétés qui inventaient une nouvelle machine dans le cadre de leur production, surtout si la société est un peu grosse, immédiatement filialisait et faisait vendre cette machine par la filiale, donc finalement à tous les concurrents de la maison mère. Ces filiales fabricants de machines disparaissaient au bout de 4 ou 5 ans parce qu'ils n'étaient pas alimentés en amont sur des idées de nouvelles machines. Donc ça, c'était 80, 85, 86, 87. En 89, 90, je commence à aller au Japon régulièrement. Et en même temps, je commence à m'intéresser un peu au marché de volume. Et donc, je vais au Japon, je vais en Allemagne sur les salons des machines de câblerie à Düsseldorf. Je vois des machines. Quelques mois après, je vais sur le même salon à Tokyo. Je vois exactement les mêmes machines. Et pourtant, quand je visitais des entreprises japonaises, je voyais des machines sensationnelles. Elles n'étaient pas à vendre. Et là, j'ai découvert que même des entreprises relativement petites, en 90 j'avais 250 personnes, donc des entreprises de ma taille, 250 personnes, avaient un service intégré de conception de machines. Et que les Japonais avaient sorti une théorie qu'ils appellent la Total Productive Maintenance, TPM. Et dans la théorie de la TPM, on dit tout est copiable. Vous prenez le produit du concurrent, vous le décortiquez, vous le copiez. Ses clients, vous finissez par les trouver. Ses fournisseurs, vous finissez par les trouver. Les salariés, vous les débauchez. Ou dans le système japonais, vous les recrutez à la même université. Mais il n'y a qu'une chose que vous ne pouvez pas copier, c'est les machines si l'entrée de l'usine est interdite aux visites. Et ça, c'était pas mal. Donc j'ai commencé à fermer mon usine et être extrêmement prudent avec tous mes fournisseurs de machines et de matières premières, parce que toutes les petites améliorations qu'on avait apportées, le fournisseur de machines ou de matières premières allait les raconter à mon concurrent. Si vous faites comme il a fait dans son usine, vous verrez que ma machine marche bien. Voilà. Donc à l'heure actuelle, j'ai 12-13 personnes. Ce n'est pas une grosse équipe fabricant de machines. Et il y a une industrie qui copie ses fournisseurs, c'est l'industrie automobile. On vous fait des audits, de process sous prétexte qu'ils ont besoin d'être sûrs que vous serez capable de produire les volumes qu'ils vous demandent, mais ils regardent tout ce que vous faites. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de gens de l'automobile Renault et PSA ou les équipementiers en dessous, mais en gros, les informations fuient vers le concurrent de façon que le concurrent baisse ses prix et vous ratez l'affaire. Eh bien, néanmoins, malgré ces copiages, j'ai quelques machines pour l'automobile, bien qu'ils le voient, qu'ils n'ont jamais réussi à copier. Donc à l'heure actuelle, ma société produit le câblage de 7 millions de airbags, et notamment quand on veut des airbags, le câblage du airbag qui ne fasse pas de bruit dans les BMW. Donc cette conception de machine donne un avantage compétitif. L'autre leçon que j'ai tirée, c'est que finalement j'avais du mal quand je faisais des niches à attirer des ingénieurs en production, parce que c'est de l'artisanat quand on fait des niches. Donc ils voulaient tous être en R&D, en bureau d'études. À partir du moment où on fait du volume, on les attire en production. Et parce qu'il y a des contrôles statistiques, des CPK calculés, des trucs comme ça. Mais en même temps, je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus facile d'inventer un procédé de fabrication, donc une machine, que d'inventer un produit. Et dans la fabrication additive, on peut inventer plein de machines. Donc le retard ou l'avantage qu'ont les Allemands, et on peut le combler. Et au fond, si on invente une nouvelle poudre de titane ou de je ne sais pas quoi, en même temps, on est obligé d'inventer le process pour la souder. Et donc, du coup, on peut se mettre à faire la machine correspondante. Et si possible, pas trop la vendre au grand public. Et j'ai fini la réponse à la question qu'on ne m'avait pas posée.
Pierre Couven.
Oui, après vous avoir entendu, M. Puzo, j'aurais tendance à vous demander si vous avez commencé à développer un Fab Lab à fabriquer des patrons innovants. Je crois que c'est quelque chose qui pourrait être très utile.
Système de clonage,
oui. Oui, très utile pour répondre à la question de la soirée. Enfin, moi, j'ai été très, très intéressé par l'exposé de Guillaume Duval sur l'Allemagne, qui est un pays que je connais assez bien. Je suis à peu près d'accord avec tout ce qu'il a indiqué, notamment avec l'importance du fait que les loyers, enfin que le coût des immobiliers est assez bas pour les utilisateurs. Si on part de l'idée qu'en France, on a 30% peut-être des dépenses de chacun qui est dans l'immobilier, et si c'est seulement 10 ou 15%, ça fait évidemment une grande différence. Et il me semble que les Allemands investissent les sommes correspondantes, outre le fait que ça peut être facilité une baisse des salaires, ils les dépensent en biens sédentaires, c'est-à-dire par des aménagements très, très soignés de leur maison, en faisant appel à des artisans, enfin à des biens locaux, ce qui permet une grande stabilité du pays. Et ils acceptent des investissements, même quand ils ont des temps de retour finalement assez longs d'un point de vue français. C'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit quand vous avez indiqué que les excédents financiers allemands vont s'investir essentiellement dans des pays voisins. En fait, les Allemands, me semble-t-il, acceptent des temps de retour beaucoup plus bas, ce qui peut expliquer par exemple leur politique énergétique, où ils, encore une fois, ils ont une vision à beaucoup plus long terme et ils investissent dans des maisons passives, des maisons à énergie positive, etc. parce qu'ils ont des moyens financiers disponibles et encore une fois, ils investissent chez eux en employant abondamment une main-d'œuvre sédentaire avec des temps de retour très longs. En tout cas, c'est un complément à votre thèse. Alors, il y a un point néanmoins sur lequel je ne suis pas d'accord dans votre critique assez radicale de Schröder. En fait, Schröder a quand même baissé les charges sociales en compensant ça par une augmentation de TVA, mais également et peut-être surtout par une augmentation des taxes sur les carburants, ce qui rejoint les solutions qu'ont indiquées Thierry Veil et Pierre-Noël Giraud. En l'espace de 3 ans, ils ont augmenté les taxes 3 centimes ou quelque chose comme ça chaque année, si bien qu'on est arrivé à un niveau de taxation très significativement supérieur à celui qu'on a en France. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît quand même tout à fait positif et qui pourrait être de nature à recueillir un certain consensus en France. Voilà, qu'en pensez-vous ?
Oui, sur le caractère long-termiste des Allemands et des décisions. Quoi, ce qui est important, c'est qu'effectivement, en France, on est incapable de définir un cadre politique de long terme stable et crédible. On dit souvent, en particulier sur les questions de transition énergétique, de conversion écologique de nos économies, que c'est le court-termisme des actionnaires et des entreprises qui empêche de faire ça. Je crois que c'est plutôt faux. En général, les entreprises sont plutôt demandeuses d'un cadre prévisible à long terme, stable. Bon, elles se battent aussi pour que ce cadre ne soit pas trop contraignant, elles ne fassent pas perdre trop d'argent, mais elles sont plutôt demandeuses d'un cadre stable à long terme. Un des problèmes politiques et une des différences essentielles entre la France et l'Allemagne, c'est effectivement l'incapacité qu'on a à générer ce cadre stable et prévisible à long terme, tandis que c'est vrai qu'en Allemagne, il y a cette capacité collective. Donc vous avez sûrement entendu parler de la retraite à 67 ans. en Allemagne. Mais la retraite à 67 ans, ce sera en 2030. Mais ils sont déjà, enfin, ça fait déjà 5 ans qu'ils se sont écharpés pour savoir s'ils allaient faire la retraite à 67 ans. Mais c'était pour savoir s'ils la feraient en 2029. Donc aujourd'hui, si on discutait de quoi que ce soit en disant on le fera en 2029, ça paraîtrait, aucun Français ne croirait qu'aucune décision publique qui est prise aujourd'hui pour 2029 tiendra la route dans aucun domaine que ce soit en 2029. Les Allemands, si, ils y croient. Bon, là, dans le cas précis, je pense qu'ils vont peut-être quand même changer d'avis parce qu'ils sont en train de découvrir que ça va leur poser beaucoup de problèmes, mais ils sont capables effectivement de discuter ça, et c'est une des différences principales entre nos deux pays. Après, sur les transferts de taxation vers des taxes écologiques et le fait qu'on puisse notamment abaisser le coût du travail en faisant ça, oui, je suis évidemment bien d'accord. Sur la capacité à dégager des consensus rapides pour aller dans ce sens-là, il y a eu un certain nombre d'expériences un peu négatives dans le pays ces dernières années, mais j'espère qu'on saura les surmonter rapidement.
Bonjour, en fait, ça va être une question en décalage avec toutes les remarques expertes, mais est-ce que vous pourriez revenir sur la fabrication additive, la fabrication soustractive, et donner une définition, parce que je vois à peu près, mais j'aimerais le voir vraiment très précisément. Et depuis quand est-ce que ça se développe, et où est-ce que ça a commencé? Merci.
Je vais faire bref, si je peux. Soustractive, c'est la façon dont on fait des pièces en métal à l'heure actuelle. Vous prenez un bloc de métal, vous l'usinez, vous faites des copeaux, donc vous soustrayez de la matière. En additif, vous prenez des grains de matière et vous les soudez entre eux pour faire la forme que vous voulez. La fabrication additive existe sous la forme de stéréolithographie depuis une trentaine d'années. En stéréolithographie, vous remplissez un bac d'une résine, donc d'un liquide, et vous envoyez des rayons ultraviolets ou d'autres choses qui solidifient une partie du liquide. Et quand vous avez fini de solidifier ce que vous avez envie, vous faites partir la partie liquide et il vous reste une forme. Est-ce que ma définition suffit?
Les deux premières définitions, oui, tout à fait.
Je suis désolé, mais nous devrions finir dans 10 minutes. Donc
Oui, nous sommes nous des observateurs et des analystes de l'industrie automobile. Donc je voudrais en fait revenir sur cette industrie qui délocalise depuis plusieurs années maintenant. J'ai été très très intéressé par tout ce qui a été dit aussi bien sur la France que sur l'Allemagne. Mais je me pose des questions sur la transcription concrète de ce que l'on peut faire dans l'industrie automobile. Donc nous menons une réflexion avec différentes instances sur la relocalisation en France de l'industrie automobile. Donc c'est une industrie par essence très industrielle, l'industrie automobile. Et on se heurte à un certain nombre de difficultés. Si je comprends ce que je viens d'entendre, il faut à la fois fabriquer plus de voitures en France pour pouvoir échanger ces voitures comme d'autres produits, et en même temps, les délocaliser en Grèce pour faire plaisir à nos amis de Grèce. Or, les voitures françaises, c'est un fait, coûtent beaucoup, beaucoup plus cher que les voitures fabriquées à l'étranger et vont continuer, quoi qu'il arrive, à coûter beaucoup plus cher. De la même manière, en Allemagne, elles coûtent beaucoup plus cher. La seule différence en Allemagne, c'est que les Allemands ont eu d'autres priorités. Ils ont investi d'abord, parce que pour délocaliser, il faut d'abord investir pour construire des usines. Ils ont d'abord investi en Chine pour faire des usines en Chine. Et dans les prochaines années, mais ils ont quand même délocalisé, dans les prochaines années, les Allemands vont continuer et même accélérer leur délocalisation. Ma question est la suivante. On a un prix beaucoup plus élevé. Comment peut-on localiser une filière automobile en France?
Alors quand en plus les Français n'achètent pas beaucoup de voitures.
Et les Français achètent moins de voitures. Alors je finis juste. On avait regardé un certain nombre de pistes. Par exemple, développer des filières, la filière électrique. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de politique de filière électrique en France. Ou faire venir des investisseurs. Mais tout cela passe par l'État. Donc ma question est-ce que vous, les économistes, vous avez des solutions que l'on peut appliquer à des domaines concrets tels que celui de l'industrie automobile?
On peut prendre une série de questions là parce que ça permettra de réfléchir. Je pense que l'économie, elle ne peut pas tout là, ou plutôt, elle serait plutôt pessimiste. Mais...
Est-ce que je peux faire une réponse de non-économiste? La première, c'est que quand vous êtes une grande entreprise, vous faites de l'automobile. Quand vous êtes une grande entreprise, vous faites des Airbus. Quand vous êtes une PMI ou une ETI comme moi, vous faites des composants. Et au fond, quand vous faites un composant pour l'automobile, vous êtes capable de faire quelque chose d'à peu près équivalent pour l'aéronautique et pour le médical. Donc la recommandation que je donne à tous mes confrères qui sont dans les Ardennes et qui travaillent que pour l'automobile, avec le savoir-faire que vous avez, allez voir d'autres clients. Parce que si vous avez une... Et donc, moi, j'ai 25% d'automobiles, 30% d'aérospatiales, etc. Donc, quand vous avez une clientèle diversifiée, quand l'automobile se casse la figure, ben vous avez peut-être l'aéronautique qui va, et ainsi de suite. Donc, vis-à-vis des PME, moi, je pense que la recommandation est donnée, ayez une clientèle diversifiée en marché. Deuxième chose, l'automobile est en train de basculer en 48 volts. Le 48 volts permet de la miniaturisation, beaucoup plus d'électronique. Et au fond, il y a énormément d'innovations qu'on peut faire dans les voitures grâce au 48 volts. Donc, au fond, il y a quelque chose à faire en électronique. Même si c'est mal structuré, il y a quelque chose à faire. Actuellement, l'Europe achète en Chine 60% de son électronique. On avait 100 PME qui faisaient des PCB, des cartes électroniques en France. Il en reste 3-4. Et donc, c'est quand même pas normal. Et donc, dans la petite présentation extrêmement brève que j'ai montrée, avec un Arduino à 15 euros, on peut faire des automates et faire de la mécatronique. Pour vous donner un petit exemple des gamins de première, ils ont fait un poulailler qui s'ouvre et se ferme automatiquement. Un autre groupe a fait quelles sont les meilleures formes des avions. Et donc, au fond, il y a des espoirs possibles. Il faut simplement essayer de les organiser et les prendre par le bon bout. Ce n'est pas une réponse.
Je croyais que vous alliez dire qu'il faut que les constructeurs automobiles fassent autre chose, mais non, c'est les sous-traitants.
Si, peut-être un mot sur cette question. Je n'ai pas non plus de solution miracle, mais je connais une histoire qui m'a beaucoup impressionné. C'est l'histoire des montres Swatch et de la Smart. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la Smart, la petite voiture, comment c'est né ce machin-là. Donc, c'est un monsieur qui s'appelle Hayek, qui est un Suisse, qui a sauvé l'industrie horlogère suisse en faisant des montres Swatch. Donc, au lieu d'aller se plaindre à Berne pour dire que le coût du travail était vraiment trop cher en Suisse, c'est les plus chers du monde. Hein. Il a trouvé une bonne idée, c'est-à-dire de faire des montres qui sont toutes pareilles, mais avec trois détails. On peut en vendre aux vieux, aux jeunes, on peut en vendre deux fois dans l'année en changeant la couleur, etc. Donc il a sauvé l'industrie horlogère suisse en faisant ça.
Elle ne se répare pas, ce qui est le plus important, le plus traumatisant pour les horlogers.
Et derrière, il s'est dit, pourquoi est-ce que je ne ferais pas pareil avec les bagnoles ? Il n'était pas complètement fou, il savait que faire une voiture, c'était quand même pas exactement la même chose que de faire des montres. Et donc il s'est mis en recherche de gens pour faire des voitures avec lui. Donc il a fait le tour de l'Europe, il est tombé sur Mercedes. Et ils ont fait ensemble une société commune. Et ils ont créé, à ce moment-là, ils ont créé une société commune. Ils ont mis les finances et le commerce en Suisse. Ils ont mis le bureau d'études dans le sud de l'Allemagne, à côté de Mercedes. Et puis, est venu le moment de dire où est-ce qu'on met l'usine ? On l'a mise en France, parce que c'était à l'époque que je vous ai décrit tout à l'heure. Il y avait des subventions, c'était en Lorraine. Et en plus, les gens étaient formés et pas chers, grâce aux cotisations sociales, etc. Mais simplement... Je pense que l'avenir de l'automobile, il viendra de ce type d'innovation. Alors, dans le cas précis, ça n'a pas été un grand succès, ni commercial, ni financier. Mais la voiture de demain, ce sera autre chose que celle d'aujourd'hui. Elle viendra sans doute pas forcément des fabricants d'automobiles. Peut-être que c'est M. Bolloré qui finira par remporter la mise pour ce qui concerne la France.
Bon, l'heure s'approche. Je vais prendre les deux dernières questions, en rajouter une et ce sera...
Oui, je voulais vous interpeller sur quelque chose qui est connexe à l'industrie, mais pas seulement. C'est la gabegie des transports quotidiens, des pertes de travail qui sont générées par ça. Et pour avoir connu il y a peu de temps des exemples de télétravail, je me dis que dans l'industrie aussi, il y a peut-être une partie des activités qu'on pourrait délocaliser. Je me posais la question de savoir s'il n'était pas possible, à votre avis, de créer un label qui puisse permettre à des investisseurs privés de construire dans les villages, à proximité des habitations, des petits hôtels dans lesquels il y a toute l'infrastructure qui va bien pour que les gens puissent travailler sans se déplacer, en se déplaçant à pied. Alors, pourquoi ça ? C'est parce que finalement, je me suis rendu compte, en tant qu'entrepreneur et en tant que patron, qu'il y avait un double traumatisme au fait de ne pas se rendre sur le travail. Il y en a sur le lieu du travail. Il y en a un qui est... C'est pas si facile que ça pour chacun de celui qui reste chez lui, de se mettre dans les conditions de travail pour être efficace lorsqu'il est chez lui, que ce soit sur le plan logistique ou en termes de temps. Et puis, il y a quand même aussi un problème pour l'employeur en termes de garantie de la qualité du travail et de l'assiduité. Donc, finalement, si on arrivait à proposer des lieux qui soient dans le village, dans la municipalité, les anciennes postes, par exemple, qui sont bien câblées et qu'on a tendance à fermer, avec, je ne sais pas, quelques dizaines de bureaux, qui soient un label. En fait, je pense qu'au niveau national, s'il y avait un label, on obligeait un certain niveau de service, de qualité, de contrôle, et que des investisseurs privés investissent là-dedans, de fournir ces petits hôtels locaux et qu'on puisse avoir un mécanisme de redistribution pour l'entrepreneur. Hein. Pour l'entrepreneur, quand on fait... Oui, je m'arrête. Hein. Quand on fait du télétravail, on fait déjà ce choix-là.
Henri hein. Lagarde.
Moi, c'était simplement de venir à la fiscalité, les prélèvements obligatoires. Nous avons des prélèvements obligatoires de 49 en cotisation sociale, mais en fait de 38 à 41 pour une ETI. alors que les Allemands ont 20 en base 20,9 et ça finit à 15, d'autres ont encore moins. Je pense aux Danois qui ont 0, c'était pour révolutionner leur industrie. Nous avons des taxes locales qui sont en fait des impôts qui sont autour de, si on prend tout dépend de la boîte, mais de 25 du RCI, quand on a 10% des RCI. Les Allemands sont autour de 14, puisqu'ils sont de 7 à 17,25. Nous avons enfin un IS qui est de 33,3. Les Allemands sont à 15 de base. Bon, je m'arrête là, c'est toute ma question. Et j'ai l'impression qu'on n'en parle pas souvent, parce que le CIC, qui est un très beau truc, mais ça ne s'adapte pas à la petite entreprise. La plupart, on n'a que 41% des salaires qui sont touchés par le CIC. Le reste n'est pas touché par le CIC. Donc ça vous interdit d'être industriel, etc. etc. C'est-à-dire faire des... Il faudra un jour trouver des mesures fiscales générales.
Je voudrais, pour conclure, poser une question sur l'Europe. Si on mesurait la balance des échanges entre la Corse et la France, ça ferait frémir. On ne mesure pas la balance des échanges à l'intérieur de la France, et ce n'est pas plus mal, il y a des transferts. Mais si on savait à quel point telle ou telle communauté nous coûtait cher, on se scandaliserait. Actuellement, en Europe, on publie des balances commerciales ou balances des paiements de chacun des pays, puis on se met à se scandaliser. Quoi ? Les Grecs, vous êtes déficitaires, c'est une honte. Autrement dit, il y a des circulations de biens et de personnes entre les différents pays européens qui créent des déséquilibres assez forts. On voit apparaître ces déséquilibres, on stigmatise les gens qui sont en déséquilibre négatif et on ne peut pas dire qu'on fasse grand-chose de transfert. Est-ce que c'est vraiment durable ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut vraiment parler ? Est-ce qu'on peut imaginer une Europe sans l'esquisse de mécanismes de transfert ? Je sais que c'est politiquement très difficile, mais la France sans transfert serait à feu et à sang depuis longtemps. Est-ce que l'Europe sans politique de transfert est durable ?
Je vais répondre à cette question. Ça, c'est une remarque. Je vois l'empreinte de notre maître à tous les deux dans un certain domaine, Claude Rivlin, à savoir quelque chose qui devient quantifiable existe, alors que quand ce n'est pas quantifié, ça n'existe pas. Mais simplement, je ne suis pas d'accord avec lui en l'occurrence. C'est-à-dire, même si on ne mesurait pas la balance commerciale entre l'Allemagne et la Grèce, par exemple, il n'en resterait pas moins que les Grecs, consommant plus qu'ils ne produisent, ils s'endettent. Oui. Et ce n'est pas seulement les transferts, ils s'endettent. La vraie question pour la Grèce, c'est ça. C'est un surendettement qui s'est concentré dans l'endettement public, mais qui résulte, et on ne le souligne pas assez, de ce déséquilibre commercial du territoire, mesuré ou pas. Alors, en revanche, ce que tu dis est vrai des transferts et des fonds structurels. C'est vrai que la solidarité à l'intérieur d'un territoire par des transferts divers et variés, qui ne sont pas mesurés, effectivement, enfin, qu'on pourrait reconstituer, mais c'est un peu compliqué. Et c'est immédiatement visible en Europe, puisque ça passe soit par un budget européen qui est commencé minuscule, soit par des opérations exceptionnelles du type ben, on va finalement mettre en place quelque chose pour financer la dette grecque, enfin, pour la racheter. C'est-à-dire, bon. Là, il va y avoir des transferts massifs, mais ad hoc. Il y a pas, bon. Et moi, je ne crois pas qu'on puisse mettre en Europe le même type de solidarité fiscale et par transfert qui existe à l'intérieur de la France ou qui existait à l'intérieur de la France. Ce qui est un cas assez particulier, je pense qu'on va plutôt vers la configuration américaine où le problème se pose aussi. En Amérique, c'est la circulation des hommes qui rétablit les déséquilibres. Quand ça ne va pas dans la région des Grands Lacs parce que l'automobile s'effondre, les gens vont à Houston ou en Californie. Point. Et je crois que c'est plutôt vers ça qu'on va, et les derniers chiffres que j'ai cités d'immigration semblent bien le confirmer. J'ai été moi-même assez frappé de cette importance des flux migratoires. Parce que la doxa, ça se produira pas en Europe parce qu'on ne parle pas tous la même langue. Ben non, ça se produit quand même. De toute façon, aux États-Unis non plus, ils ne parlent pas tous la même langue, de moins en moins. Donc,
Peut-être une précision pour répondre à vos questions, notamment sur l'automobile. Je rappelle que Toyota, dont l'usine est à Valenciennes, exporte dans toute l'Europe et contribue positivement à la balance commerciale française. Donc, c'est parfois possible. Je voudrais préciser que les filières ne sont pas forcément une panacée parce que beaucoup d'ETI sont en bonne santé parce que justement, Joseph Puzo l'a rappelé tout à l'heure dans son cas, elles arrosent plusieurs filières et elles peuvent surmonter la crise de l'une d'entre elles. On a reçu récemment la fabrique de l'industrie Clextral qui fait de l'extrusion. Ils font de l'agroalimentaire, ils font de la plasturgie, ils font du papier monnaie. Et toute leur force, c'est un des rares fabricants de biens d'équipement à l'allemande en France. Ils arrosent toutes les filières. Donc une politique verticale de filière permet de résoudre certains problèmes de relations d'un ordre de sous-traitant, peut-être de formation à certains métiers communs. Mais il faut se garder d'en faire l'outil universel. pour une remarque sur la question de monsieur. Il existe de plus en plus des espaces de coworking en France. Il y en a un pas loin dans le deuxième arrondissement à la cantine, où des gens viennent pour ne justement pas travailler tout seul ou pour sortir du bureau et rencontrer des gens, pas pour être fliqué, quelqu'un garantisse qu'ils ont bien fait 7h30, mais simplement parce que c'est stimulant d'être avec des gens. Donc c'est sûrement une piste, ça existe dans certaines industries comme l'industrie du logiciel. Et je laisse Guillaume répondre sur l'Europe avec plus de compétences.
Non, mais je voudrais dire un mot sur les impôts avant. Je crois que le problème des impôts, ce n'est pas tellement le niveau des impôts, c'est la qualité des services qu'on obtient en contrepartie. Il y a des pays qui s'en sortent bien avec des niveaux de dépenses publiques et d'imposition tout à fait comparables aux nôtres, c'est les pays scandinaves. Nous, c'est vrai que ça pose plus de problèmes, mais c'est d'abord et avant tout, je crois, la question de la qualité de ce qui sort. D'autre part, il y a pas simplement une question de qualité de ce qui sort. Je crois que la difficulté française par rapport à cette question-là, je la vois de la façon suivante. Vous avez deux modèles qui sont relativement cohérents à l'échelle mondiale et qui s'en sortent à peu près dans l'Europe mal foutue et la mondialisation mal foutue telle qu'on les connaît aujourd'hui. Vous avez d'un côté le modèle anglo-saxon et de l'autre côté le modèle scandinave. Ce qui les différencie, c'est que dans le modèle anglo-saxon, vous avez des fortes inégalités de ce qu'on appelle les revenus primaires, c'est-à-dire les revenus que les gens tirent directement de leur activité économique. Là-dessus, on n'essaye pas vraiment de les corriger. Il y a un filet de sécurité minimale pour les très pauvres. Il y a un État aussi qui agit très fort quand il y a la crise du chômage, etc. Comme il n'y a pas beaucoup de protection sociale, il faut faire quelque chose pour trouver de l'emploi rapidement. Donc, ils n'hésitent pas. Et ces gens-là, bon, ils sont très mal là tout de suite, mais enfin, ils s'en sont quand même pas trop mal sortis depuis 30 ans. Et de l'autre côté, vous avez les Scandinaves, où c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'inégalités de revenus primaires à la base. Vous avez sans doute peut-être fait l'expérience un peu traumatisante d'aller boire une bière à Stockholm ou à Copenhague. Ça coûte très cher parce qu'il y a une TVA à 25%, mais aussi parce que le gars qui est derrière le bar, il gagne à peu près autant qu'un prof ou qu'un cadre. Hein. Et donc là-dessus, on branche des niveaux de dépenses publiques très importants. Mais c'est des niveaux de dépenses publiques très importants qui ont un effet redistributif relativement limité parce que les inégalités à la base sont très limitées. Et d'autre part, comme les inégalités à la base sont très limitées, les gens, même pauvres, sont bien éduqués, ils ont des capacités à adopter les technologies high-tech assez vite, etc. Ça fait un réservoir en particulier d'innovateurs important. Et puis, vous avez la France. Nous, notre spécificité là-dedans, c'est que je crois qu'on est très inégalitaire, beaucoup plus inégalitaire qu'on se pense d'habitude au niveau des revenus primaires en particulier, des statuts sociaux, etc. Ce n'est pas une spécialité française, c'est une spécialité latine. Les pays les plus inégalitaires, c'est la Grèce, l'Italie, le Portugal, etc. Mais on est dans ce monde-là. Le problème, c'est qu'on essaye de brancher là-dessus des niveaux de dépenses publiques et de prélèvements scandinaves et que ça ne marche pas très bien. Ça ne marche pas très bien parce que les riches ont l'impression qu'on leur prend beaucoup pour donner aux pauvres, mais les pauvres sont mécontents aussi parce que les inégalités sont telles à la base que, de toute façon, quoi qu'on mette dans les tuyaux de la redistribution, ça ne suffit pas à corriger ça. On le voit à travers les politiques de la ville et les problèmes qu'on peut avoir là-dessus. On le voit aussi à travers les politiques éducatives. Donc vous connaissez tous comme moi les bons lycées, les bonnes filières, etc., pour contourner cet aspect redistributif du système public. Donc tout le monde est mécontent et ça marche mal. Mais après, si une fois qu'on a dit ça, il y a deux voies. Soit on peut dire il faut se rapprocher du modèle anglo-saxon, on est très inégalitaire, il faut accepter notre niveau d'inégalité, arrêter toutes ces conneries. C'est une voie qui est possible, mais c'est une voie qui est difficile, en particulier pour les soutiers et pour les gens les plus mal barrés dans la société. On peut dire aussi on devrait se rapprocher davantage du système scandinave. C'est ce qu'on dit d'habitude souvent les gens de gauche quand ils sont dans l'opposition, mais ils ont beaucoup de mal à le faire quand ils sont au pouvoir. Pour une raison assez simple, c'est que les premiers qui subissent une évolution vers le système scandinave, c'est relié à ce que disait Pierre Noël tout à l'heure sur les nomades et les sédentaires. Le système scandinave, ça consiste quand même à traiter les nomades comme les sédentaires, en gros. Hein. À dire, on a des services chers, payés avec des gens bien payés, bien qualifiés, etc. Le problème, si vous voulez, c'est que la gauche politique et syndicale, qui défend en général ce genre de discours, elle est quand même formée pour l'essentiel par des gens qui profitent bien du système actuel et des inégalités actuelles. Et ce seraient les cadres de la fonction publique et les cadres du secteur privé aussi d'ailleurs qui devraient payer plus cher leurs femmes de ménage, les gens qui entretiennent leurs pavillons de banlieue et les bars et les restaurants, et ça poserait problème. Voilà, c'est comme ça que je vois surtout le problème des impôts. Ce n'est pas tellement une question de niveau, c'est une question de rendement de l'activité publique et d'adéquation au système d'inégalité et de valeur.